BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, bientôt 18h15 sur BFM Business. Les consultations des partis politiques se poursuivent. Le chef de l'État consulte tout azimut depuis ce matin pour tenter de nommer un prochain Premier ministre à Matignon. Est-ce qu'on commence à y voir un petit peu plus clair sur ses intentions ? Bonsoir Benjamin Morel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On a besoin de vos éclairages, toujours très précieux. Vous êtes maître de conférence en droit public à Paris 2. Quelle est votre analyse de ces consultations menées depuis ce matin ? Est-ce que pour vous, on a avancé ?
Modérément. C'est même un euphémisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en effet grand-chose qui a bougé. On constate que le mouvement populaire n'a pas de majorité qui permettrait une nomination de Lucie Castel à Matignon. C'est quelque chose qui semble avoir été répété à la fois aux leaders de l'ancienne majorité et puis par l'Élysée à la presse. De l'autre côté, la majorité, l'ancienne majorité présidentielle, quand bien même on y rajouterait LR, sachant que les LR sont sur une position qui n'est pas une position d'alliance vis-à-vis de cette ancienne majorité, ça fait toujours 210 députés et donc c'est insuffisant. Donc tout le monde dit qu'il a une volonté de s'ouvrir et de se tendre la main, mais en même temps les lignes rouges sont aujourd'hui relativement indépassables. Le centre et la droite disant qu'ils ne veulent pas voir un insoumis, voire pour certains un écolo au gouvernement. Quant au Nouveau Front Populaire, il est tenu par son programme et par son alliance avec l'AFI, qui induit par définition un blocage qui était celui qui était déjà présent ce matin et qui d'ailleurs était déjà présent dès le 7 juillet.
Ce qui est peut-être nouveau, c'est les mots employés par le chef de l'État, en tout cas d'après les participants, et notamment le Nouveau Front Populaire qui est ressorti, c'est eux qui ont été reçus les premiers, et ils en sont ressortis tout sourire, visiblement très satisfaits, puisqu'Emmanuel Macron leur aurait dit qu'il a admis, entre guillemets, sa défaite, en tout cas, le fait que la politique, sa politique, en tout cas, à lui, devra changer, doit changer. Donc ça, c'est quelque part une main tendue.
C'est quelque part une main tendue, mais qui ne règle pas la situation. Si vous voulez, alors Emmanuel Macron, évidemment, coutumier comme ça de ce type d'effet de communication en disant que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais comme d'ailleurs ses prédécesseurs, c'est une vieille loi de la politique, mais ça ne règle pas la question de la majorité. C'est-à-dire que quand bien même Emmanuel Macron voudrait modifier le logiciel politique qui était le sien, déjà il ne tient plus son groupe politique. Un groupe politique aujourd'hui, il est tenu par Gabriel Attal, dont on connaît les bonnes relations actuelles avec Emmanuel Macron.
Ouais, c'est ironique.
C'est un euphémisme. Exactement, c'était l'ironie. Et de l'autre côté, quand bien même, c'est-à-dire que l'électorat macroniste est très anti-insoumis. Il ne ferait pas faire une alliance pour des raisons claire des macronistes aux insoumis. Quant aux insoumis, ils n'ont aucune envie non plus de faire alliance avec les macronistes. Donc, de toute façon, ces lignes rouges sont solides. C'est-à-dire qu'il y a une étanchéité entre ces deux blocs. Donc, soit vous avez un accord qui va des Verts au LR, qui n'ont pas un atome crochu idéologique commun entre eux et qui, si plus impliquerait une explosion du MSP qui est venu aujourd'hui relativement uni, et avec le risque pour les députés socialistes et écologistes qui rentreraient dans cette logique-là de se retrouver face à un candidat insoumis en cas de dissolution, qui ferait qu'il crée tout sur des sièges éjectables. Je rappelle que la gauche fait moins de voix en 2022 qu'en 2017. Mais elle a 4 fois plus de députés. Pourquoi ? Parce qu'elle part unie. Et donc aujourd'hui, si vous brisez le MSP, si vous avez une dissolution de cette alliance, et prendre le risque pour les socialistes et les écologistes qui n'ont pas les meilleures circonscriptions à gauche, d'être battus en cas de dissolution. Mmh. Donc dans cette situation-là, les forces d'inertie, quoi qu'en dise Emmanuel Macron, elles demeurent et elles risquent de perdurer assez longtemps.
Donc pour vous, le bloc de gauche, il est infissurable. Emmanuel Macron ne doit pas compter là-dessus, en fait. Cette fameuse coalition du centre dont on nous parle depuis le deuxième tour, elle n'aura pas lieu.
Que fait Jean-Luc Mélenchon le soir du 7 juillet ? Il dit « on a gagné ». On a gagné, autrement dit, on va arriver au pouvoir. Et si nous n'arrivons pas au pouvoir, nous, au Front Populaire, eh bien c'est parce que certains auront trahi, auront été chercher ailleurs des pâturages plus verts, notamment socialistes et écologistes. Regardez bien si vous ne voulez pas être de sociotraître. Et donc, ce faisant, il prend à témoin l'électorat de gauche du fait que si jamais il devait y avoir une alliance de la carpe et du latin, forcément avec les macronistes, mais également, encore une fois, avec la droite, Laurent Wauquiez serait arithmétiquement nécessaire. Eh bien, ça veut dire que cette gauche-là n'est pas la vraie gauche et que Sandrine Rousseau ferait alliance avec François-Xavier Bellamy, Fabien Roussel ferait alliance avec Éric Zor pour qu'on coopte un budget. Donc, ça serait politiquement très compliqué. Et deuxième élément, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. Pour des raisons électorales, le mode de scrutin majoritaire à deux tours, c'est qu'ils savent très bien que s'ils partaient séparés, ils seraient profondément mis en difficulté. Cette situation-là, elle induit par définition des blocages qui, au-delà même des bisbilles idéologiques qui peuvent exister au sein de la gauche et qui sont réelles, font qu'il est très difficile d'envisager une vraie fissure du NSP.
Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est très intéressant. Vous dites que ce qu'a dit en gros Emmanuel Macron au parti de gauche, c'est de la com. La com dont il est coutumier. Vous dites que quand il dit qu'il prend acte du fait qu'il faut changer de politique dans le pays, c'est de la com. Il a eu une autre expression envers eux, c'est en tout cas ce qu'ont rapporté les représentants du Nouveau Front Populaire. La stabilité ne veut pas dire la continuité de la politique que j'ai menée. Vous y croyez pas, en fait. Ça, c'est juste des formules pour essayer de les endormir.
Il faut bien comprendre quelle est la position d'Emmanuel Macron. Tout le monde, depuis le 7 juillet, dit le problème, le blocage, il est à l'Élysée. L'Élysée ne veut pas nommer quelqu'un, l'Élysée procrastine, l'Élysée a décidé de conserver le pouvoir, et donc le problème aujourd'hui est Emmanuel Macron. Le problème, c'est peut-être Emmanuel Macron, mais c'est surtout qu'il n'y a encore une fois pas de coalition possible. Ah. Et que si Emmanuel Macron nommait Lucie Castet, Xavier Bertrand, qui vous voulez, ça tomberait en 48 heures. Et donc l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de montrer dans ses rencontres qu'il n'est pas le blocage. Qui n'est pas celui qui fait que la situation n'avance pas, que le blocage il est ailleurs, que le blocage il est dans cette absence de coalition. Si vous commencez à dire, écoutez, moi je vais bien vous prendre, mais vous allez appliquer mon programme, là vos opposants politiques auront beau jeu de dire, non mais en fait le blocage il est ici, vous avez un président qui n'a pas compris qu'il avait perdu. Donc on est dans une bataille de communication sur qui portera le chapeau d'un relatif probable échec de la constitution d'une coalition.
D'accord. Donc pour vous, on se dirige vers, je reprends vos mots, probable échec. Vous voyez pas comment on peut sortir par le haut de la situation. C'est arithmétiquement et politiquement impossible.
C'est arithmétiquement très compliqué. Vous avez trois scénarios. Soit vous avez ce scénario alliance macroniste NSP, très improbable. Ça impliquerait de franchir la ligne entre macroniste et insoumis. Les insoumis seront compris. Soit vous allez de LV à LR. Ça apparaît suicidaire pour les partis qui rentreraient dans cette logique-là et idéologiquement pas cohérent. Soit vous avez un gouvernement centriste qui tient grâce aux bonnes grâces de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen ne voterait pas les motions de censure. C'est peut-être à ce stade-là le scénario d'ailleurs le moins probable, avec un gouvernement qui tout de même serait assez malaisé d'expliquer que s'il tient, c'est parce que Marine Le Pen ne vote pas les motions de censure. Alors certains disent, oui, mais des motions de censure, ça vient forcément de quelque part, et Marine Le Pen ne les voterait pas. Je rappelle que le RN votait des motions de censure venant de la gauche lors de la dernière législature.
Bien sûr.
Donc elle a aucune raison de dire aujourd'hui, attention, ça vient de la gauche, donc je ne la voterai pas. Si elle veut la voter, elle la votera. Donc un gouvernement Bertrand, Barnier, Borloo, qui vous voulez, ça tient par la bonne grâce de Marine Le Pen à ce stade-là. Donc on peut avoir des expériences, on peut avoir des tentatives, ça peut tenir quelques jours, quelques semaines. À terme, on peut aller vers un gouvernement technique, parce que je rappelle qu'il y a un compte en rebours qui s'appelle celui du budget.
Tout à fait.
Et que le budget doit être déposé le premier mardi d'octobre sur le bureau de l'Assemblée.
Le 1er octobre.
Le 31 décembre. Et ça, c'est un fait évidemment urgent, parce que un budget, ça ne se prépare pas en un week-end. C'est un gros travail, un gros bébé à déposer au Parlement. Et donc, un gouvernement qui, aujourd'hui, prendrait les rênes du budget aurait déjà fort à faire. C'est pas un hasard si on fait des élections d'habitude au printemps et que, justement, on veut laisser et l'été et le début de l'automne au gouvernement préparer son budget.
Pour travailler. On n'a pas parlé, enfin, ou peu, en tout cas, des LR jusqu'à présent. C'est eux qui ont été reçus après le bloc central. Est-ce qu'ils ont la clé de la question? En tout cas, ils ont, enfin, la clé du problème. Ils ont, en tout cas, Laurent Wauquiez a réaffirmé leur posture. Ça n'a pas varié d'un iota. On ne fera aucune coalition. S'ils ne bougent pas, ça veut dire qu'il est en position de force?
Oui, mais chacun est en position de force, parce que votre coalition, admettons, votre coalition des centres, ce qui était espéré par Emmanuel Macron, elle compte à minima 7 groupes politiques. Si l'un de ces 7 groupes politiques se désolidarise, dont LR, votre coalition n'existe plus. Donc les LR sont en position de force, parce que sans eux, en effet, il n'y a pas de coalition des centres possible, minoritaire, et il n'y a pas de coalition qui tienne quoi qu'il arrive. Mais LR est peut-être nécessaire, mais LR n'est pas suffisant, encore une fois. C'est-à-dire que si vous prenez LR, les centristes Macron plus LR, ça fait 210. C'est pas non plus suffisant. Donc chacun va tenter de faire monter les enchères. Mais on parle beaucoup des grandes coalitions à l'étranger. Et c'est pas une affaire de culture politique, ça. Ça veut rien dire, ces affaires de culture politique. Les coalitions politiques à l'étranger, elles comportent en règle générale 2-3 parties. Une grande coalition à l'allemande, c'est CDU-CSU plus SPD. C'est 2 parties. En Italie, vous avez parfois 3-4 parties, mais pas au-delà. Là, on parle de 7 groupes politiques. Ouais. Donc, évidemment, c'est extrêmement instable, sachant que s'il y en a un des 7 qui décide de voter la motion de censure, il n'y a plus de gouvernement.
Oui, intéressant ce que vous dites. Donc les LR restent inflexibles. Est-ce que c'est... Ils se distinguent dans le sens où tous les autres disent être prêts à faire des compromis. Le Nouveau Front Populaire, le Bloc Central, Gabriel Attal qui dit « je suis pour qu'on nomme quelqu'un de la droite républicaine ». La droite, enfin les LR, sont les seuls à ne pas faire de bouger. Est-ce que c'est une faute? Enfin, est-ce qu'eux aussi devraient mettre un peu d'eau dans leur vin?
Sur le principe qu'ils y seraient probablement contraints. Mais il faut bien voir que lorsque vous êtes le membre d'une coalition, et surtout quand vous êtes un membre minoritaire d'une coalition, vous n'avez que des coups à prendre. C'est-à-dire que si jamais vous êtes LR et que demain vous discutez avec les partisans d'Emmanuel Macron et que vous rentrez dans une logique de coalition, Marine Le Pen va vous dire, mais en fait, vous assumez donc le bilan d'Emmanuel Macron et la politique qui est menée durant ce quinquennat et peut-être pendant les précédents, c'est également la vôtre. Donc ce faisant, je suis la seule alternance, la seule alternative, et ça, une partie de l'électorat LR pourrait l'entendre et se décrocher. De même d'ailleurs pour les socialistes et les écologistes, hein, c'est-à-dire que rentrer dans une coalition avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, c'est assumer également le bilan du gouvernement qui sera celui qui sera monté, et ça évidemment, ceux qui resteront dans l'opposition, eh ben, en profiteront. Regardez ce qui s'est passé en Italie. La dernière grande coalition derrière un gouvernement technique, il y a un seul parti qui n'a pas participé, c'est Frères d'Italie, c'est le parti de Giorgia Meloni.
Tout à fait.
Et on connaît la suite.
Et on connaît la suite, c'est elle qui a pris largement le pouvoir. Les consultations vont se poursuivre lundi avec le Rassemblement National et Éric Ciotti. Le fait qu'il soit reçu à part, seul, est-ce que c'est un... Je cherche l'expression, enfin, de fait, ça va les distinguer. Aujourd'hui, tout le monde a défilé et eux vont être mis en lumière par le fait qu'ils soient reçus seuls.
Alors, ça va les distinguer.
Est-ce qu'il y a un traitement de faveur? Voilà, est-ce qu'il y a un traitement de faveur? C'est le mot que je cherchais.
Peut-être, en tout cas, de toute façon, visiblement, il y avait une question de calendrier et les leaders du RN ne voulaient pas revenir plus tôt. Mais au-delà de ça, ça donne également le sentiment qu'ils peuvent avoir les clés, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, vous avez deux blocs qui sont étanches l'un avec l'autre. Le bloc NSP et le bloc centriste LR qui n'existe pas, mais admettons qu'il existe, ce bloc centriste LR. Ils ne peuvent pas voter les uns pour les autres, ni refuser les motions de censure à ce stade-là. L'arbitre des élégances, si jamais quelque chose devait tenir politiquement, c'est le RN. De quoi a peur l'Élysée en nommant, par exemple, Lucie Castet? C'est pas que Lucie Castet tombe en 48 heures, c'est que Lucie Castet tienne parce que le RN mettrait du temps à voter une motion de censure, permettant de faire passer une réforme des retraites, ouais, des modifications du SMIC par décret, etc. Si un gouvernement Bertrand, Borloo, Barnier tenait, ou Cazeneuve, bah c'est probablement parce que le RN ne voterait pas les motions de censure. Donc on est dans une situation assez paradoxale où le seul bloc politique qui ne peut pas participer à une coalition, parce que personne ne veut former de coalition avec lui, est peut-être celui qui, s'abstenant sur les motions de censure, aura à la fois la possibilité de faire tenir un gouvernement, mais également aura le doigt sur la gâchette permettant de faire tomber le gouvernement quand il le souhaitera, ce qui sera une position très inconfortable, mais ce qui pour quelques mois peut arranger, notamment pour faire passer le budget, peut arranger la vie du président de la République.
Ouais, très intéressant. Il nous reste deux minutes, Benjamin Morel. Le Rassemblement National disait cette semaine, je recevais Edwige Diaz, la numéro 2 du parti, dit que pour elle, la situation est insoluble. Et qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de refaire une dissolution dans un peu moins d'un an maintenant, puisqu'il faut attendre 12 mois entre chaque dissolution. Vous êtes d'accord avec elle? Il n'y a pas de solution à la situation?
Il n'y a pas de solution, mais je ne suis pas sûr que la dissolution soit une nouvelle solution. De quoi tombe la 4e République? La 4e République, en fait, c'est un régime parlementaire classique, post-Seconde Guerre mondiale. La Constitution n'est pas si exceptionnelle que ça, il n'est pas vraiment le problème. Le problème sur la 4e République, c'est que vous avez 30% de communistes. On ne peut pas s'allier avec eux pour cause de guerre froide. Vous avez 15% de gaullistes, on ne peut pas s'allier avec eux parce que De Gaulle ne veut pas. Et donc, vous gouvernez sur les deux tiers de votre assemblée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez un bon tiers de RN et vous avez un bon quart de l'AFI. À eux deux, ils composent environ 50% de votre assemblée et les groupes du centre ne veulent s'allier ni avec le RN ni avec l'AFI. Et donc, ce faisant, la seule coalition qu'on a envisagée tout à l'heure, elle va des Verts au LR. Ce qui n'est pas cohérent, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, comme ça l'était sous la 4e République. Vous faites une dissolution dans un an. A priori, le RN, qui restera dans l'opposition, a toutes les chances de monter. Si l'AFI ne baisse pas, et l'AFI est encore une fois le meilleur circonscription de gauche, vous pouvez vous retrouver avec un hémicycle encore plus ingouvernable, avec plus de RN, avec pas moins de l'AFI, auquel cas, si jamais demain, RN plus l'AFI qui ne gouverneront jamais ensemble, évidemment, et ça fait plus de 50%, vous faites quoi? quelle coalition devient possible? Et bien, à ce moment-là, on est réellement bloqué. Donc, la dissolution, c'est ingouvernable en effet. Il n'est pas sûr que la dissolution dans un an rende la situation plus gouvernable. Et en disant ça, j'ai bien conscience de déprimer vos auditeurs. Et j'en suis désolé.
Toute dernière question, Benjamin Morel. D'après les participants aux consultations, Emmanuel Macron annoncerait, dans la foulée des consultations, peut-être dès mardi, avant le début des Paralympiques, le nom du prochain ou de la prochaine Première ministre. Est-ce que vous y croyez? Et puis surtout, si c'est le cas, en fait, ça veut dire qu'Emmanuel Macron sait déjà qui va aller à Matignon.
Une possibilité qu'il annonce en effet. Après, ça ne réglera pas de problème. D'abord, parce qu'il faut composer votre gouvernement. Puis ensuite, comme on l'a dit, s'il n'y a pas de coalition qui tient derrière, ça ne sert à rien de se concentrer sur un nom. Votre gouvernement tombera assez rapidement. Alors, ça peut tenir jusqu'au début de la session ordinaire. Le Parlement siège de plein droit jusqu'au 1er octobre. Mon gouvernement fantôme peut tenir durant les Paralympiques. Mais fondamentalement, ça ne serait pas forcément le gage de stabilité. Non. D'autant qu'encore une fois, si vous avez un gouvernement sans majorité qui tient jusqu'au 1er octobre et qui est renversé le 1er octobre, comment est-ce que vous faites pour le budget? Donc, voilà, cette solution-là, si elle devait être retenue, sans coalition derrière, elle est quand même très risquée et pas forcément une solution de stabilité.
Bon, on l'a bien compris, on n'est pas beaucoup plus avancé. Merci, merci. Et vous n'avez pas à vous en excuser, vous y êtes pour rien. Merci, merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM Business.